VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Il est 4h du matin à Washington, 9h à Essaou et Terre Sérine Gaga en Gambie. Bienvenue dans ce bulletin à la présentation Nanit Talani. En République du Congo, la justice a décidé de donner une indemnité de 15 millions de francs CFA aux proches de 13 jeunes tués dans le commissariat de Chakona à Brazzaville dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018. La Cour d'appel de Brazzaville a examiné hier le recours contre le jugement de la Chambre correctionnelle en mars 2019 qui ne prévoyait aucune indemnité pour les familles endeuillées. Cette chambre avait alors condamné 6 policiers à des peines allant de 1 à 3 ans de prison pour homicide involontaire. Selon Maître Stéphane Bagne, l'avocat des parties civiles, la Cour d'appel a annulé le premier jugement. Elle a requalifié les faits et reconnu la responsabilité civile des prévenus et de l'État congolais, condamné donc à verser cette indemnité de 15 millions de francs CFA par victime. Présente à l'audience, certaines familles ont estimé que 15 millions par victime, c'est minime parce que ces jeunes ont perdu la vie plutôt, à la fleur de l'âge. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a solennellement proclamé aujourd'hui la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans l'histoire du pays, qui a fait 55 morts depuis son apparition le 1er juin dans une province du Nord-Ouest. En ce mercredi 18 novembre 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, a déclaré le ministre devant la presse. Il y a eu 55 décès pour 119 cas confirmés et 11 probables, a détaillé de son côté l'OMS. Comme lors de la 10e épidémie dans l'Est, la vaccination a été largement utilisée sur plus de 40 580 personnes, a indiqué l'OMS. Le risque élevé de résurgence reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de vigilance soit renforcé, a indiqué le ministre. Au Mozambique, en une semaine, plus de 33 000 personnes ont fui les violences dans le nord, ravagées depuis 3 ans par une insurrection djihadiste, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. Les insurgés ont intensifié leurs attaques depuis la prise de la ville portuaire de Mocimboa da Praia en août, dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz naturel. Ces dernières semaines, plusieurs villages ont été attaqués, des dizaines de civils décapités ou kidnappés, dont des enfants et des femmes. L'OIM estime que plus de 355 000 personnes ont été contraintes de quitter leur maison depuis 2017. D'après l'ONG ACLED, les violences ont tué au moins 2 000 personnes, dont 1 100 civils. Hors de l'Afrique, l'Iran décide d'appliquer automatiquement ses engagements en matière nucléaire si le futur gouvernement de Joe Biden lève les sanctions imposées par Washington contre Téhéran depuis 2018, a indiqué le ministre des Affaires étrangères iranien dans un entretien publié aujourd'hui. Il n'y a besoin pour cela ni de négocier ni de poser des conditions. Si les États-Unis respectent la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les sanctions sont levées et qu'il n'y a aucun obstacle aux activités économiques de l'Iran, alors l'Iran, ainsi qu'il a annoncé, respectera ses engagements en matière nucléaire, a dit Mohammad Javad Zarif au quotidien gouvernemental Iran. Joe Biden a dit vouloir un changement de cap par rapport à la politique de pression maximale contre l'Iran menée par le gouvernement actuel de Donald Trump. Celui-ci a sorti unilatéralement en mai 2018 les États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne 3 ans plus tôt. Les fondateurs de Twitter et Facebook ont de nouveau été interrogés hier au Sénat américain sur le pouvoir de leur plateforme dans le débat politique. « Il semble que vous soyez devenu l'éditeur ultime », a déclaré Lindsey Graham, le président républicain de la commission judiciaire qui a organisé cette édition sur la gestion de l'élection de 2020 et la censure dont Donald Trump et ses alliés se disent victimes. Les républicains reprochent aux deux réseaux leur décision de limiter la circulation d'articles du quotidien conservateur New York Post qui assurait fournir des preuves sur une affaire de corruption impliquant le démocrate Joe Biden environ 2 semaines avant le scrutin présidentiel. Twitter et Facebook, auditionnés au Sénat pour la 2e fois en moins d'un mois, ont défendu leurs mesures prises pendant les élections pour, disent-ils, juguler la désinformation et les tentatives de discréditer le processus électoral. La Russie a enregistré hier un nouveau